Bonjour.
Bonjour, bonjour à toutes et à tous. L'actualité ce matin, c'est la visite en France du président égyptien Abdel Fattah al-Sissi, reçu à l'Élysée par son homologue. Les ONG souhaiteraient que les deux hommes évoquent la situation des droits de l'homme. Nous entendrons à ce propos la voix d'Ala El Aswani, le célèbre écrivain égyptien exilé à New York. Mais il sera plus probablement question de vente d'armes, les précisions à venir de Bertrand Galichet. Le Royaume-Uni entame ces jours-ci sa campagne de vaccination. Pourquoi Londres est-elle plus rapide que Paris et les autres capitales européennes sur le sujet? Une question administrative, nous dira Sophie Bécherel. Et puis nous reviendrons sur les violences des Black Blocs dans les cortèges parisiens, notamment samedi à la Marche des Libertés. Un phénomène qui n'a rien de nouveau, selon le sociologue Fabien Jobard. C'est donc une visite officielle qui fait bondir les défenseurs des droits de l'homme. Celle du président égyptien Abdel Fattah al-Sissi en France depuis hier soir. Il sera reçu dans le cours de la matinée à l'Élysée pour un entretien puis un dîner. Beaucoup d'ONG et d'associations réclament que le président français évoque la situation des droits de l'homme en Égypte, où l'on estime à 60 000 le nombre de personnes détenues pour délit d'opinion. Cette visite officielle entre deux partenaires stratégiques, comme le précise l'Élysée, interpelle aussi les intellectuels égyptiens dont certains ont dû s'exiler. C'est le cas du plus célèbre écrivain du pays, Ala El Aswani, l'auteur de l'immeuble Yacoubian, qui a publié cet été chez Actes Sud le syndrome de la dictature. Interdit de publication dans son propre pays, poursuivi par la justice, il vit désormais à New York, où Frédéric Martel l'a joint hier pour l'émission Soft Power. Selon Ala El Aswani, Emmanuel Macron doit pouvoir parler de stratégie et de droits de l'homme.
Je comprends très bien que M. Macron et le président de la République ne présentent pas seulement les principes de la France, mais aussi ils présentent les intérêts de la France. Mais moi, je pense qu'on ne doit pas oublier les principes. Et je dois aussi dire qu'en défendant les principes de la République, on peut bien avoir les intérêts. Les deux côtés ne sont pas contradictoires.
Vous êtes exilé à New York. Cela veut dire que vous avez préféré partir pour votre sécurité, pour votre liberté d'expression, que vous avez pu rentrer dans votre pays?
Dès que M. Sissi est arrivé au pouvoir, j'ai été interdit d'écrire dans tous les journaux égyptiens. Et après, j'étais interdit de publier mes livres. Et après, à cause de mon dernier roman, j'ai couru vers le Nil. J'ai été poursuivi devant tribunal militaire. Je suis interdit en Égypte. Il n'y a pas tellement de justice parce que les jugements sont souvent décidés avant le tribunal.
L'écrivain égyptien Ala El Aswani. Sur les dossiers diplomatiques, en revanche, France et Égypte semblent raccord sur beaucoup de dossiers. Libye, Israël-Palestine ou lutte contre le terrorisme. Autre point d'importance pour la France, également décrié par les ONG, la vente d'armes à l'Égypte, qui fut l'un de ses gros clients avant de se tourner vers d'autres fournisseurs. Les précisions de Bertrand Galichet.
Si l'Égypte a été l'un des meilleurs clients de la France en matière d'armement, la situation a beaucoup changé ces dernières années. Il y a 5 ans, les Égyptiens avaient signé des contrats impressionnants en achetant 24 avions de guerre Rafale et 2 navires de type Mistral que la France devait initialement livrer à la Russie. Depuis, l'Égypte n'a pas procédé à des acquisitions spectaculaires auprès des industriels français de l'armement. La venue de Abdel Fattah el-Sissi permettra-t-elle à la France de retrouver une place importante parmi les fournisseurs de l'Égypte? Aucun accord d'envergure militaire ou civile ne devrait être annoncé lors de cette visite d'État, mais les contrats en cours se poursuivent, de même que la coopération stratégique en matière de défense. Les deux pays partagent aussi une même ligne politique à propos de la Turquie, sur la question de la Libye et de la Méditerranée orientale, autant d'éléments qui pèsent lourd face au dossier des droits de l'homme en Égypte. Emmanuel Macron en avait parlé lors de sa visite au Caire en janvier 2019, et s'était fait sèchement recadré par le président égyptien. Le sujet devrait être à nouveau abordé aujourd'hui. Pour resserrer les liens avec l'Égypte, le président français dispose d'un atout, Jean-Yves Le Drian, qui entretient depuis longtemps une très bonne relation avec le chef de l'État égyptien.
Bertrand Galichet, une visite diplomatique qui ne sera pas ou très peu ouverte à la presse officiellement pour cause d'épidémie. Sur le front du Covid-19, justement, les derniers indicateurs français semblent marquer un léger reflux de la baisse constatée depuis quelques jours. Le dernier bilan des autorités de santé fait état de 11 000 nouvelles contaminations en 24 heures, bien au-delà de l'objectif des 5 000 cas par jour fixé pour lever les mesures de confinement. En revanche, le nombre de patients en réanimation, lui, continue de refluer, ainsi que le nombre de morts. La France attend toujours l'arrivée du vaccin. vaccins. Alors qu'au Royaume-Uni, la campagne de vaccination commence demain. La Russie, elle, vaccine depuis samedi et les Chinois depuis plusieurs mois. Ailleurs, les autorités de santé n'ont pas encore donné leur feu vert, ce qui n'est pas anormal. Les dossiers sont en cours d'évaluation. Les agences de tous les pays ont reçu le même dossier des laboratoires, mais les Britanniques sont allés plus vite. Sophie Bécherel.
Vacciner avec quelques semaines de décalage ne devrait pas avoir d'impact majeur sur le cours de l'épidémie. Attendre 2 ou 3 semaines, la décision de l'Agence européenne du médicament n'a donc rien d'extravagant pour Jean-Daniel Lelièvre. Le chef du service des maladies infectieuses à l'hôpital Henri Mondor de Créteil explique l'avance prise par les Anglais par un choix administratif. Une autorisation temporaire d'utilisation quand le reste de l'Europe a préféré une classique autorisation de mise sur le marché.
Les Britanniques ont souhaité mettre en place ce qu'on appelle une autorisation dans l'urgence, qui n'est pas véritablement une AMM, qui repose sur les données évidemment que leur ont fournies les laboratoires, mais c'est quelque chose de temporaire. Les Européens estimaient beaucoup plus intéressant d'avoir une autorisation définitive d'utilisation de ces vaccins qui soit valable pour l'ensemble de l'Europe, ce qui demande un tout petit peu plus de temps. Il ne faut pas confondre vitesse et précipitation par rapport au Royaume-Uni, qui a souhaité ça, je pense, plutôt comme un message politique que comme un véritable message scientifique, comme le souhaitaient les Européens.
La rapidité à donner une validation au vaccin ne changera de toute façon rien au délai de fabrication et de livraison des industriels. La France ne pourrait obtenir les 2 premiers millions de doses nécessaires aux résidents des EHPAD qu'en janvier ou février.
Sophie Bécherel. Elles ont fait passer au second plan les revendications et les slogans, ces images de voitures brûlées, de banques et d'agences immobilières vandalisées et de policiers noyés sous une pluie de projectiles. Elles ont fait le tour des réseaux sociaux ce week-end après la marche des libertés organisée à Paris samedi. 3 personnes étaient toujours en garde à vue hier dimanche sur les 95 interpellés en marge du cortège, toujours contre la proposition de loi sécurité globale. Mais pour l'instant, les auteurs présumés des violences envers les forces de l'ordre n'ont pas été appréhendés. Ces derniers appartiennent très probablement aux Black Blocs, très visibles ces derniers temps dans les manifestations, mais qui, selon Fabien Jobard, sociologue, directeur de recherche au CNRS et spécialiste du maintien de l'ordre, n'ont rien d'un phénomène nouveau ou grandissant. Écoutez-le, interrogé par Laura Dulieu.
Toute manifestation s'accompagne d'éléments radicaux qui tentent d'en détourner le cours, qui tentent de procéder à des destructions, dégradations, affrontements avec la police. Ce qui est certain, c'est que l'actualité de ces dernières semaines offre à ces éléments radicaux une base de légitimation qui est considérable. Regardez la vidéo du passage à tabac de Michel Zecler, le producteur de musique. Elle a été vue par 20 millions de personnes. On ne peut pas attendre dans un tel contexte que les opinions radicales sur la police, sur le caractère autoritaire de la police ou de l'État, soient d'un coup effacées. C'est une conjoncture qui amène à nouveau, comme dans les années 70, comme également dans les années 80, comme à la fin des années 90, des éléments de mouvance anarcho-autonome à se rendre plus visibles qu'à d'autres moments. Mais depuis mai 68, on ne voit pas une augmentation si forte de la violence.
Le sociologue Fabien Jobard. Elle avait été retrouvée morte dans sa salle de bain en 2012, officiellement d'un cambriolage qui aurait mal tourné. Mais l'enquête sur la mort de la journaliste mexicaine Regina Martinez vient d'être relancée. Et ce, par le consortium Forbidden Stories, qui regroupe 25 médias internationaux, dont la cellule investigation de Radio France. Cette affaire est emblématique de la violence meurtrière qui s'abat sur les journalistes au Mexique. Et c'est le premier volet d'une enquête de 10 mois appelée Projet Cartel. Regina Martinez enquêtait sur les agissements des narcotrafiquants et la corruption des autorités locales. Cette enquête du consortium révèle donc que le gouverneur de l'État de Veracruz, où elle vivait, Javier Duarte, avait fait en sorte que sa mort soit déguisée en cambriolage. Nous reviendrons sur ce projet cartel dans notre journal de 8h. Le temps de ce lundi 7 décembre, toujours maussade et froid sur la plus grande partie du pays. De la neige au-dessus de 300 mètres sur les frontières de l'Alsace et du Nord. Sur le reste de la moitié nord du pays, après un début de journée froid et brumeux, le temps sera plus calme. Dans le sud, de la pluie et du vent attendu. Les températures minimales comptées ce matin entre moins 4 et 3 degrés sur la moitié nord, de 1 à 6 degrés au sud. Les maximales ne dépasseront pas 2 à 11 degrés du nord au sud.